Chapitre 10. La retraite. Ponctuel et grave comme toutes les occupations du château, le déjeuner de Port-Sauveur, réuni chaque matin à 11 h, en l'absence du banquier, le haut personnel de la maison religieuse, autour de Jeanne Hautement. Des places immuables, la présidente au bout de la longue table, Anne de Bueil à sa droite, à gauche, J.B. Crouza, l'instituteur, aux joues caves, à la barbe courte et dure de Parpaillot, aux yeux ardents, d'un bleu globuleux et fanatique, sous un front pointu. Charentais, du pays d'Anne de Bueil, il se destinait au pastorat et suivait les cours d'Ossandon quand des amis le menèrent à un des prêches de l'évangéliste. Il sortit de là dans cet état d'émotion exaltée que certains prédicateurs drapés de bure blanche causent aux dévotes mondaines. Mais chez lui, l'impression fut plus durable et depuis 5 ans, il avait quitté famille, amis, sacrifié son avenir pour cette modeste place d'instituteur primaire qui le rapprochait de Jeanne. Dans le pays, il passait pour son amant, car ces grossiers paysans n'auraient pu s'expliquer sans cela cette ferveur du disciple enchaînée aux lèvres de l'apôtre. Mais l'évangéliste n'a jamais eu d'amant. Et les seuls mots passionnés sortis de cette bouche serrée, au pur dessein, sont restés suspendus, cristallisés, aux aiguilles de la mer de glace. En face du Charentais, la directrice de l'école des filles, Mademoiselle Amère, personne dolente, au regard toujours baissé, ne parlant pas, et à tout ce qu'on lui dit, répondant par un oui plaintif d'approbation douloureuse, qu'elle prononce « moui ». Il y a quelque chose d'écrasé sur tout ce pauvre être, depuis ses épaules infléchies jusqu'à son nez trop petit dans sa face blanche, qu'on dirait aplati par la chute originelle. Et le sentiment de la première faute est si profond en elle, il anéantit tellement que c'est à peine si elle ose, timide et nouée d'esprit, incapable de toute propagande extérieure, faire la classe aux petits-enfants. Au bout de la table, à la place réservée au pasteur Birk le dimanche, se tient en semaine l'élève des écoles, garçon ou fille, qui a mérité les meilleures notes dans la récitation des Saintes Écritures. À Port-Sauveur, l'éducation est exclusivement religieuse, réduite aux versets de la Bible, d'où sont tirées toutes les leçons, les exemples de ronde et de courante, jusqu'aux abécédaires à images. Si grande est la foi de Jeanne Hautement dans l'Évangile qu'elle pense que, même incompris, il agit sur les néophytes à la façon des transcriptions du Coran dont les Arabes se bandent le front lorsqu'ils sont malades. Et c'est pitié de voir le plus admirable des livres annonné, bégayé, bâillé par ces voix de petits paysans, chaud et souillé par la crasse de leurs mains et les larmes de leur paresse. Le jeune Nicolas, l'ancien pensionnaire de la petite Roquette, est le produit perfectionné de ce mode d'éducation. Aussi occupe-t-il presque toujours le bout d'honneur vis-à-vis de la présidente. Celui-là, c'est l'écriture par cœur, tous les évangiles selon Luc, Jean, Marc, Matthieu, le Deutéronome, les psaumes, les épîtres de Paul, et à tout propos, sans qu'on l'interroge, il fait tout haut une citation inconsciente, inarticulée, qui semble sortir du cornet d'un phonographe. Autour de lui, on se tait et on admire. C'est Dieu qui parle par la bouche de cet adolescent. Et quelle bouche ! Quand on pense à tout ce qu'elle charriait d'impiété et d'abomination il y a 3 ans sur le préau des jeunes détenus, n'était-ce pas miraculeux et le plus éclatant témoignage en faveur des écoles évangéliques ? D'autant qu'il reste encore sur Nicolas quelques souillures de l'ancien péché, mensonges, gourmandises, prévarications, et que l'on a souvent les défiants spectacles des combats que se livrent le bon et le mauvais esprit dans cette conscience mal blanchie, dans cette parole où l'ecclésiaste corrige à grand-peine l'argot des prisons. C'est à côté de ce phénomène qu'Hélène Ebsen prend place les jours où elle déjeune au château. Sa situation est connue de tous et le mariage impie qu'elle va faire. On sait que la cure d'âme est commencée, mais que le mal résiste à tous les efforts. Et il faut la douceur de Madame Hautement, sa patience inaltérable, pour continuer le traitement devant un tel mauvais vouloir. Anne de Bueil aurait depuis longtemps chassé du temple à coups de fouet de meute cette créature destinée à l'enfer. « Tu veux brûler, Satan ? Eh bien, brûle !» Et c'est aussi l'avis de J.B. Crouza. Hélène sent l'hostilité qui l'entoure. Personne ne lui parle, ne daigne s'occuper d'elle, autrement que par des regards de colère ou de mépris. Même sous la face muette du sacristain qui sert à table, elle courbe le front, intimidée, comprenant au fond de son cœur son infériorité parmi tant de saints personnages. Et cependant, il y a pour elle, dans l'oppression de ces longs déjeuners de Port-Sauveur, au plat de couvent, viande bouillie, légumes à l'eau, prunes au cuit, dans la solennité de cette immense table aux couverts espacés, quelque chose de grave et de sacré qui l'émeut religieusement, comme si elle assistait, elle indigne, à la propre scène du Sauveur. Elle aime cette conversation dont on la tient à l'écart, ce dictionnaire mystique qui secoue de très haut des mots à emblèmes comme vigne, tente, troupeau, ou des abstractions, épreuve, expiation, et le vent du désert et le souffle de l'esprit. Elle s'intéresse à une foule de choses qu'elle ne connaît pas, que l'on commente devant elle sans l'y mêler, l'œuvre, les ouvrières, cette mystérieuse retraite où elle n'a jamais pénétré, puis la chronique dévote du pays, l'état moral de telle ou telle famille. « Je suis contente de Gélinot, la grâce au père !» dit Anne de Bueil, qui a ses yeux de policière à tous les recoins du village et dans un rayon de 10 lieues. Ou bien « Barraquin se gâte, voilà qu'il recommence à ne pas venir au culte » Là-dessus, une charge à fond contre les mauvais chrétiens, renégats, apostats, barbotant comme des porcs à même la fange de leurs péchés. Éline sait bien que c'est pour elle, cette comparaison délicate, quoiqu'il soit difficile d'établir une analogie entre l'animal biblique et ce doux profil envahi de honte, dont l'oreille rougit au vif dans la masse blonde des cheveux. Anne, Anne, ne désespérons pas le pécheur! Et d'un geste, Madame Hautement apaise la sectaire avec la douceur infinie de Jésus reprenant Simon le pharisien. Puis, toujours calme, mangeant et buvant à coups mesurés, elle parle longtemps et d'abondance de cette voix persuadante qui fait haleter J.B. Crouzat d'admiration et berce la pauvre Éline, l'emporte dans un rêve mystique, une gloire d'or où elle voudrait disparaître et s'anéantir comme un éphémère dans du soleil. Mais pourquoi cette jeune fille, d'apparence si maniable, nature molle, sensible, qui s'émeut et pleure quand on lui montre l'énormité du péché, est-elle si longtemps rebelle aux décisions positives? Voilà près d'un mois déjà qu'elle vient à Port-Sauveur et la présidente s'étonne de n'avoir rien obtenu encore. Anne de Bueil aurait-elle raison? Le malin triompherait-il de cette âme si précieuse à l'œuvre sous tant de rapports? Madame Hautement commence à le craindre. Et ce matin, lorsqu'en entrant dans la salle à 11 heures précises, elle ne voit pas Éline, humble et debout, attendant à sa place comme toujours, elle se dit « C'est fini, elle ne viendra plus !» Mais la porte s'ouvre, la jeune fille paraît, tout animée, et malgré son retard, l'œil assuré sous ses paupières grosses de larmes. Il y a eu un embarras sur la voie, un arrêt d'un quart d'heure est choisi. Elle explique cela tranquillement, s'assied, réclame du pain au bedeau sans vergogne. On cause. Elle se mêle à ce qui se dit, aisée, naturelle, parle tente, vigne, troupeau, comme une adepte, et ne se trouble qu'en entendant Anne de Bueil demander de son air de dogue « Qu'est-ce que c'est donc que ces gens de l'écluse? La femme est arrivée hier par la voiture, une grande effrontée qui vous regarde dans les yeux. Elle avait une fillette par la main, la sœur du petit Maurice, paraît-il. Encore du fretin pour le curé. » Éline a pâli, un flot de larmes lui monte. Fanny, son enfant, là, tout près. Sous ses paupières baissées, elle voit la tête mignonne et chétive, les cheveux plats, noués d'un ruban, si léger, si doux. « Ah, chérie !» Et tout à coup, à côté d'elle, une voix de force râle dans le silence de la table effarée. « La gosse de l'écluse ? Oh, mince ! J'ai foutu une vraie chasse ce matin, à ce carcan-là » C'est le souffle du mal qui s'échappe par la bouche du jeune Nicolas. Le malheureux semble épouvanté lui-même de ce qu'il vient de dire, et sur sa face gonflée, convulsée, violette, comme s'il avait avalé de travers, on suit avec anxiété l'horrible lutte visible du bon et du mauvais esprit. Enfin, le jeune drôle se débarrasse en buvant un grand coup, et d'une longue aspiration soulagée, il attaque un verset de l'Ecclésiaste. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te loue avec un chant de reconnaissance. Alléluia! Le démon est encore une fois terrassé. Un soupir satisfait le constate autour de la table. et dans le fracas du train de midi qui passe, chacun se lève et plie sa serviette en glorifiant l'Éternel. « Vrai, c'est vrai ? Ah, cher enfant, que je t'embrasse pour cette bonne nouvelle !» C'est la froide Jeanne Hautement qui serre Éline avec transport et l'entraîne. « Viens vite me raconter ça !» À la porte du petit salon, elle se ravise. « Non, à la retraite, nous serons mieux. » À la retraite, quel honneur pour Lina! Sous le perron plein de soleil, où les pèlerines font des ombres dures, Anne de Beuil arrête sa maîtresse au passage. « Baraquin est là !»« Parle-lui, je n'ai pas le temps !» Puis tout bas, avec un petit rire muet, « Elle est sauvée !» Et Madame Hautement s'éloigne au bras d'Éline pendant que son acolyte questionne le vieux marinier qui s'est levé du banc où il attendait, son bonnet d'une main, grattant de l'autre son crâne dur, humide et rond comme une pierre du bord de l'eau. « Baraquin, pourquoi ne venez-vous plus aux assemblées ? Je vas vous dire !» Il suit d'un œil de regret la jupe noire disparue à un tournant d'allée, sachant qu'il aurait plus facilement raison de l'évangéliste que de ce vieux loup en bonnet de linge. « Bien sûr qu'elle en vaut une autre, la religion de Madame Hautement, et qui a pas un curé pour dire sa messe, aussi drée qu'elle. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait au vieux des raisons avec ses enfants, qui sont d'un endroit plus loin, qui a pas de culte. Il tire vers l'église, dame, et faut bien dire que l'autre dimanche, en entrant vers le bon Dieu de Juvisy, les cierges, les dorures, la belle Sainte Vierge, tout ça y a remué un tas de gringonotes dans l'estomac à ce pauvre père. » Ce n'est pas la première fois qu'il joue cette comédie, le vieux baraquin, pour décrocher 40 francs et une redingote neuve. Anne de Beuil résiste, et rien n'est plus drôle que de les voir financer tous deux, paysans contre paysannes, discuter comme au marché de Sceaux, cette vieille âme racornie qui ne vaut certes pas l'argent. Mais quel triomphe pour le curé si Baraquin retournait à son ancienne église. Pourtant, elle le laisse partir, le dos en deux, geignant, tordu, marchant de travers, une fausse sortie de marchandage. Au milieu du perron, Anne de Beuil rappelle. « Baraquin ! Plaît-il ? » Et elle monte avant lui les trois marches qui mènent au petit salon vert. En passant devant le jeune Nicolas, témoin muet de cette scène, le paysan cligne de l'œil et l'autre, les yeux blancs, la tête sur l'épaule, béat, lâche un verset de circonstance. « J'ai ôté de dessus toi ton péché et je t'ai vêtu d'habit neuf. » Puis, resté seul, il détend son masque hypocrite et se carapate en sifflant, les mains dans les poches, par la haute passerelle de la voie, où se détache un moment sa grêle et vicieuse silhouette de voyou. Depuis un mois qu'elle venait à Port-Sauveur, Éline ne connaissait de la propriété que le parterre, en corbeille fleurie, l'escalier de Gabriel et la charmille faisant une longue trouée lumineuse vers les constructions blanches du temple et des écoles. C'est dans la charmille que Madame Hautement, tous ces derniers jours, l'emmenait pour la catéchiser et lui montrer les conséquences de ce mariage impie. « Dieu te frappera dans ta mère, dans tes enfants. Ton visage sera comme celui de Job, couvert de la boue des larmes. » La pauvre petite se débattait, invoquait la parole donnée, la pitié des enfants sans mère, et rentrait chez elle, brisée, indécise, pour reprendre deux jours après la lugubre promenade sous la charmille odorante et chantante, où le soleil se tamisait en ramage lumineux que les robes noires semblaient ramasser en marchant, pendant que l'évangéliste parlait de mort, d'expiation céleste, et que Lina, par ses veines ouvertes et déchirées, sentait s'échapper d'elle toute volonté, toute croyance au bonheur. Cette fois, Madame Hautement dépassa son promenoir habituel, traversa tout le parc, aux taillis droits en quinconce, aux allées ratissées et soignées, élargies par la pompe du jardin français, dont l'arbre curieusement élagué aligne des portiques, des péristyles, avec des buis en boule, les ives en vase monté, et s'efforce d'imiter le marbre, en s'enroulant comme lui de lierre et d'acanthe. Jeanne se taisait, appuyée au bras de la néophyte, tout émue de ce silence initiateur que troublait seul le foufou de leur jupe ou le craquement des branchettes que la lyonnaise émondait au passage dans son instinct de régularité. Une grille les arrêta, dont Jeanne Hautement fit grincer les ferrures rouillées. Et l'aspect de la propriété changea, redevenu champêtre et libre, montrant des allées mangées d'herbes, des bouquets de bouleaux frémissant au coin de prairies roses de bruyère, de haies vives grouillantes d'oiseaux et des hêtres, des chênes aux pieds mousseux, sentant la vieille plantation forestière. Au milieu d'une clairière, un chalet en sapin, un vrai chalet suisse, avec son escalier extérieur, ses petites vitres à châssis, sa véranda découpée sous la longue pente du toit, consolidée par de grosses pierres contre les orages de montagne. La retraite. Au premier temps de son mariage, Jeanne s'était fait, dans le second parc, loin des affineries et de la maison réprouvée, ce refuge, pieux souvenir de Greenwald et de ses premiers entretiens avec l'inaccessible. L'œuvre constituée, elle abrita là ses ouvrières, les élus destinés à répandre l'évangile et dont elle exigeait un stage de quelques mois sous ses yeux. En bas, dans la salle de prière, écrasée et triste comme l'entrepôt d'un de ces bateaux missions qui portent l'écriture aux baleiniers anglais des mers du Nord, elle s'exerçait à prêcher. Madame Hautement ou J.B. Crouzat leur donnaient quelques leçons de théologie, de musique vocale. Le reste du temps se passait en méditation dans les chambres, jusqu'au jour où, jugée digne, Jeanne les baisait au front et les envoyait avec la parole de la Bible « Mon enfant, va et travaille dans ma vigne. » Et elles allaient, les malheureuses, tomber dans quelques grands centres manufacturiers, Lyon, Lille, Roubaix, là où le péché fait le plus de ravages, où les âmes sont plus noires que la peau des sauvages africains, noires comme les ruelles étroites, le sol charbonneux et les outils de travail. Elles s'installaient en plein faubourg et commençaient l'œuvre de grâce, le jour instruisant les enfants selon l'excellente méthode de P.S. et le soir prêchant la bonne nouvelle. Mais la vigne était dure et rocailleuse et la vendange n'abondait pas. Presque partout, elle parlait dans le froid des salles vides où devait supporter la raillerie des ouvriers, grossière jusqu'à l'outrage, s'aggravant encore des taquineries de l'administration dont l'influence des Hautement, à cette distance de Paris, ne les défendait pas toujours. Sans se décourager, elle jetait la parole divine au hasard du mauvais terrain, pleine de confiance, car il est écrit que dans l'âme la moins préparée, un peu de foi, pas plus gros qu'un grain de moutarde, peut fructifier et grandir. Convaincue, elle devait l'être pour accepter, moyennant 100 francs par mois, cette existence solitaire, abandonnée, que leur faisait Madame Hautement, brisant tout lien affectueux autour d'elle, du même geste indifférent dont elle émondait au passage la pousse importune de ses taillis. C'était le renoncement du cloître sans les grilles, mais avec les mêmes exigences, les départs sur un ordre, les changements de résidence et ce retour de chaque année à la retraite pour se retremper en Jésus. Quelquefois, l'ouvrière rencontrait sur sa route un brave homme et quittait la prédication pour le mariage. Une seule, s'était sauvée avec l'argent destiné à son entretien, au loyer, au rachat des âmes. Mais en général, elles s'attachaient à la cause, détournant toute leur vitalité vers un but unique, mystique jusqu'à l'extase, jusqu'à cette folie prédicante et propagante qu'on rencontre souvent chez les femmes de la religion réformée et qui s'étend parfois en épidémie sur tout un peuple, comme en Suède, il y a 30 ans, quand les places publiques, les routes de campagne étaient pleines de visionnaires et de prophétesses. Parmi les ouvrières de Madame Hautement, les jolies filles comme Hélène Ebsen étaient rares. Presque toutes vieillies, maladives, contrefaites, rebuts du célibat, épaves du flot de misère, heureuses de venir échouer là et d'apporter au Dieu de l'évangélise ce dont l'homme n'avait pas voulu. C'était en somme la seule utilité de cette œuvre, si peu française, qui aurait facilement prêté au rire sans les déchirements et les larmes qu'elle occasionnait trop souvent. Il ne riait pas, je vous jure, le gardien Watson, tout seul dans son phare, songeant « Où est-elle? Que deviennent les petits ?» Elle ne riait pas non plus, l'hôtesse de l'affameur, sous son deuil à vie, sanglotant devant son fourneau, au milieu des gaietés de la guinguette, le mari fou, la fille morte. Pauvre petite d'amour, si jolie, si sage! Madame Hautement l'avait prise à ses écoles, puis enfermée à la retraite du consentement de sa mère qui ne savait pas bien de quoi il s'agissait. Les sermons, la musique et la mort, toujours la mort, en espoir, en menace, accablèrent bientôt d'une tristesse atrophiante cette nature de plein air encore à un âge de croissance. L'enfant disait « Je m'ennuie, je veux m'en aller chez nous !» Anne de Bueil la grondait, la terrorisait, l'empêchait de sortir. Et tout à coup, la néophyte tomba dans une faiblesse singulière, coupée de crises nerveuses, de visions lui révélant les mystères du ciel et de l'enfer, le supplice des damnés, la joie des élus à la table divine, tour à tour l'inondant de délices extatiques ou faisant claquer ses dents de terreur. La paysanne prêchait, prophétisait, dressée sur le lit son corps maigre, convulsé de désordres intérieurs, avec des cris qui remplissaient tout le parc. « J'entendions ces plaintes du dehors !» disait la malheureuse mère, qu'on tenait à distance, sous prétexte d'émotions dangereuses pour la malade. Elle entra, quand sa fille ne pouvait reconnaître personne. L'agonie commençait, muette, tétanique, aux dents serrées, avec une dilatation extraordinaire des pupilles, qui subitement éclaira le médecin sur la cause de cet étrange décès. Elle avait dû cueillir dans le parc des baies de belladone, les manger par mégarde pour des cerises. « Avec ça que mon enfant ne connaissait pas les griottes !» criait la mère exaspérée, et malgré l'opinion du médecin, malgré le rapport du procureur de Corbeil, un chef-d'œuvre d'ironie judiciaire et de joli persiflage, elle demeura convaincue qu'on avait médicamenté et tué sa petite en voulant lui tourner la tête aux extases. Ce fut l'opinion générale dans le pays. Et il en restait un mauvais renom sur ce chalet de mystère dont, l'hiver, les bois découpés se voyaient de loin entre les arbres. Au milieu de sa pelouse rose, allumée et vibrante, dans le silence et la splendeur de cet après-midi d'été, la retraite ce jour-là n'avait rien de sinistre et fit sur Hélène une mystique impression de bien-être pouvant se définir en trois mots « douceur, repos, lumière ». Oh, surtout douceur! Des voix mourantes de femmes, sur le ton implorant d'une prière récitée, des bouffées d'orgue, mêlées aux stridences des sauterelles dans l'herbe, au vol des moucherons, tournoyant très haut vers le bleu, comme par les très beaux jours. Devant la porte, une petite bossue balayant sans bruit les marches de l'entrée. « C'est Chalmette !» dit Jeanne tout bas, en faisant signe à l'ouvrière de venir lui parler. Chalmette arrivait du Creusot après 1000 avanies. Le soir, les mineurs venaient par bandes à son prêche, apportant des harangues et des litres, la tutoyant, couvrant sa voix des couplets de la Marseillaise. Les femmes surtout s'acharnaient contre elle, l'injuriaient dans les rues, lui jetaient du charbon, des escarbilles, sans pitié pour sa tournure d'avorton. N'importe, elle était prête à recommencer. « quand on voudra, disait-elle avec douceur. Mais sur sa fine tête au menton pointu, dans les longues mains d'estropiée sortant de sa pèlerine et soutenant le balai plus grand qu'elle, se crispait une volonté extraordinaire. « Elles sont toutes comme cela !» dit Madame Hautement, montant l'escalier extérieur du chalet et faisant asseoir Hélène à côté d'elle, sous la véranda formée par l'avance du toit. « Toutes, mais je n'en ai que 20, et il m'en faudrait des milliers pour sauver le monde !» S'animant à cette idée de rachat universel, elle expliquait le but, la pensée de l'œuvre, sa volonté de l'élargir. On s'en tenait encore à la France, mais on tenterait le dehors, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, où les esprits sont mieux disposés aux religions libérales. Watson était parti, d'autres suivraient encore. Elle s'arrêta, craignant d'en avoir trop dit. Mais Hélène ne l'écoutait pas. Comme il arrive aux heures décisives, elle était tout en elle-même, recueillie, dans une ivresse ineffable et fière qui la berçait, l'emportait. Devant la véranda, au faîte d'un saule, un oiseau chantait, balancé au bout d'une branche qui pliait sous son poids léger. C'était son âme, cet oiseau. « Alors c'est fini, tout à fait fini ?» Madame Hautement lui avait pris les mains et l'interrogeait. « Comme nous en étions convenus, n'est-ce pas, la communion de l'enfant ?» « Bien, très bien. Évidemment, le père ne pouvait pas consentir. Les lettres laissées sans réponse, plus de leçons à Fanny. Bien, parfaitement. » Mais pendant qu'Hélène racontait sa résistance au piège du démon, aux appels de la petite fille, à ses mains désespérément tendues, des larmes lui montaient aux yeux, comme ce matin à déjeuner. « Je l'aimais tant, si vous saviez. C'était comme une enfant pour moi. Le sacrifice a été dur. » « Que parlez-vous de sacrifice? Christ en exigera d'autres de vous et de plus terribles. » Hélène Absène courba la tête, toute frissonnante sous cette voix féroce, mais n'osant demander ce que Christ pourrait bien encore exiger d'elle.